Jean-Bernard Leroy à l'appareil. En ce début d'année 2012, je commencerai par vous souhaiter une bonne et heureuse année, année que tout le monde annonce pleine d'événements plus ou moins bizarroïdes. Nous verrons bien ce qu'il en est, car l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Moyennant quoi, je souhaite à tout le monde de parvenir au cours de cette année en excellente santé, et surtout, je souhaite au monde entier de retrouver un petit peu la joie de l'accompagnement de Dieu, et à notre pauvre pays, la France, que la Sainte Vierge fasse quelque chose pour lui, car vraiment, nous sommes très très mal partis. Je vais aujourd'hui vous parler de la suite, après la mort de Néron, il y a eu la ruine de Jérusalem et la deuxième persécution. Après la persécution qui fit suite à l'incendie de Rome, les chrétiens connurent une pause dans la persécution. La cause principale fut la lutte entre les successeurs de Néron qui s'étaient suicidés. Lutte qui dégénéra en une véritable guerre civile. Pour lui succéder, Néron aurait bien voulu avoir un fils, si possible, de Poppée. Mais alors qu'elle était enceinte, il fut pris de folie un jour et donna de violents coups de pied à Poppée, tuant et l'enfant et la mère. Il épousa ensuite un jeune homme qui ressemblait à Poppée. Il l'avait fait châtrer. Bon, il était difficile de sombrer plus loin dans l'ignoble. Après la mort de Néron, se sont succédés en moins de 2 ans, en 68 et 69, Galba, un vieux militaire très strict, avare, pour payer un joueur de flûte qu'auparavant on payait de je ne sais trop combien de pièces d'or, il lui a donné 12 pièces de bronze. Et Galba qui fut finalement assassiné par ceux qui l'avaient hissé au pouvoir. Puis Luoton, plutôt dépensier, lui, qui connut le même sort. Et enfin Vitellius, un homme violent, célèbre par ces mots, le cadavre d'un ennemi sent toujours bon. On avait affaire à du bien joli monde. Le successeur de Vitellius fut Vespasien entre 69 et 79. Un homme d'origine modeste, mais qui fut un véritable gouverneur. Entre autres, il a voulu assainir les quartiers populaires de Rome, qui, disent certains mémorialistes, avaient tout de la soue des cochons. Il leva plusieurs impôts, dont l'un sur ce que l'on nomme désormais les Vespasiennes, à propos duquel on lui prête cette phrase célèbre « L'argent n'a pas d'odeur ». Son fils Titus, sur lequel il y a des appréciations très variées, lui succéda de 69 à 81. Pendant ces guerres civiles, les Juifs, qui supportaient de plus en plus mal le pouvoir romain, se réfugiaient dans une attitude toujours plus rigoriste. Le fils du grand prêtre Éléazar avait conçu un manifeste en 18 points dans lequel on peut lire ses ordres. Ne plus sacrifier pour la santé des empereurs, ne vendre ni acheter aux païens ni eau, ni vin, ni fromage, ni bétail, peine de mort pour ceux qui apprennent le grec, etc. et autres aménités. Il y avait à Jérusalem 2 parties de révoltés, les zélotes et les sicaires qui voulaient aller jusqu'au bout. Se croyaient capables de supprimer l'autorité des Romains chez eux. Profitant des guerres civiles, ces Juifs, disons activistes, prirent d'assaut plusieurs garnisons romaines, massacrèrent les légionnaires qui refusaient de se faire circoncire. Ils tirèrent de ces victoires, qui n'étaient que très locales, un orgueil démesuré qui leur fit croire qu'ils pourraient se libérer par leurs propres forces. Si la riposte de Rome fut un peu lente à se mettre en route, elle se montra implacable. Sous la conduite de Vespasien, qui à l'époque était un simple général, une armée de légionnaires, serpents monstrueux de 3 kilomètres de long, disaient les chroniqueurs de son temps, hérissés de machines de guerre, commença à ravager la Galilée, mettant les villes à feu et à sang, massacrant systématiquement les enfants et les femmes qui ne pouvaient être vendus comme esclaves, soit en les égorgeant, soit en les crucifiant. Flavius Joseph, un chef juif, avait réussi à fuir, qui à l'époque était juif, puis ensuite passa du côté des Romains, avait réussi à fuir en se cachant dans un cercueil avant de trouver la grâce de Vespasien. Il lui avait prédit qu'il serait empereur et que son fils lui succéderait. Du coup, Vespasien lui a fait grâce. Le récit qu'il a fait de ces années est poignant. Voyant les ravages de l'année romaine, de l'armée romaine, les Galiléens se réfugièrent à Jérusalem. Une erreur fatale. Les judéo-chrétiens, dont plusieurs disent qu'ils avaient été avertis par le ciel, se réfugièrent de l'autre côté du Jourdain, dans l'actuelle Transjordanie. Le siège de Jérusalem fut d'autant plus atroce que les Juifs partagés en factions n'hésitaient pas à s'entretuer sous prétexte de trahison. Titus acheva la prise de Jérusalem le 10 août 70 avec l'incendie du temple dont il ne resta plus pierre sur pierre. Selon Tacite, plus d'un million de Juifs auraient péri. Même si la réalité a été moindre, les pertes en vies humaines ont été énormes et dans des conditions atroces. La destruction du royaume d'Israël fut parachevée par la prise de la forteresse de Masada en 73. En y pénétrant après un siège de plusieurs mois, les assaillants romains trouvèrent 5 survivants, 2 femmes et 3 enfants, et les cadavres de 967 hommes et femmes qui s'étaient entretués dans un suicide collectif, pour ne pas tomber aux mains des Romains et ne pas être vendus comme esclaves. Après un dernier sursaut de Bar Kochéba entre 231 à 135, Adrien, qui avait maté cette ultime révolte, transforma Jérusalem en une ville romaine, avec temple à Jupiter et aux dieux romains, arène, bains publics. Il déporta les Juifs, une bonne partie en Espagne, et leur interdit de revenir. Il faudra attendre 18 siècles pour que la Palestine devenue anglaise, entre-temps, cède la place à l'État d'Israël en 1947. 18 siècles, grosso modo de 135 à 1947. C'est vraiment énorme. Flavius Joseph a écrit « Nous n'habitons pas un pays maritime, nous habitons un pays fertile que nous cultivons avec soin. Une fois chassés de leurs terres, les Juifs ne pouvaient plus être des paysans attachés à leurs terres. Ils seront des exilés, comme Saint Joseph en Égypte. Artisans ou acteurs dans le tertiaire, comme on dit maintenant, y compris le commerce et, naturellement, la finance. Du point de vue spirituel, ils se sont réfugiés dans la loi, dans un respect scrupuleux, scrutant la lettre des textes plutôt que son esprit. Les discussions peuvent être fournies, car l'alphabet hébreu ne comporte pas de voyelles. JHVH est aussi bien Yahvé que Jéhovah, et trébucher s'écrit comme tire-bouchon. Un commentateur a écrit « Nous avons trop frayé avec les étrangers, nous nous sommes souillés, il faut nous enfermer, vivre dans une séparation absolue de tout contact profane. Le juif parfait n'est plus le prophète, mais le rabbin. Certains voient dans le retour des juifs à Jérusalem après 18 siècles d'absence, après 18 siècles d'absence, l'annonce d'une nouvelle période. Pour l'instant, elle est tout aussi sanguinaire que les autres. Il n'en reste pas moins que la mission du peuple d'Israël n'est pas terminée. Benoît XVI analyse ce problème dans son livre « Jésus de Nazareth ». À la suite de saint Paul, il analyse le temps des païens qui sépare la destruction des temples de la conversion des Juifs. Dans le chapitre 11 de l'Église aux Romains, saint Paul parle de la période jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. C'est un mystère que nous n'avons pas fini de scruter. Je pense en particulier à ce passage. Cet aveuglement d'une partie, je cite saint Paul dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, que j'encourage tout le monde à lire, ainsi que les chapitres 9, 10 d'ailleurs. Cet aveuglement d'une partie d'Israël ne durera que jusqu'à ce que le complément des païens soit entré. Alors Israël tout entier sera sauvé. Si par rapport à l'Évangile, ils sont ennemis de Dieu à cause de vous, par rapport à l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne regrette ni ses dons ni son appel. De même que jadis vous avez été rebelles à Dieu, mais qu'à présent, par suite de leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde, de même eux aussi sont actuellement incrédules par suite de la miséricorde qui vous a été faite, afin de bénéficier plus tard de cette même miséricorde. Il y a là un très profond mystère que nous n'avons pas fini d'élucider. Donc, après l'incendie de Rome, le christianisme se propagea dans tout l'Empire et dans toutes les classes sociales, puisqu'on trouvait des chrétiens jusque dans le voisinage de l'empereur, dans la très noble famille Flavius. Saint Paul a évangélisé l'Asie mineure, Saint André les Scythes, les Russes actuels, Saint Philippe et ses quatre filles, l'actuelle Turquie, Saint Thomas et Saint Barthélemy, les Indes, Saint Jules, l'Arménie, qui fut le premier royaume chrétien, Saint Matthieu, l'Éthiopie, Saint Marc, l'Égypte, et Saint Barnabé, l'île de Chypre, etc. Toute cette évangélisation était facilitée par le déclin d'une spiritualité païenne qui sombrait dans la superstition. On vit rapidement apparaître les premières hérésies qui seront le sujet d'un prochain exposé. Saint Clément, pape de 76 à 88, fut un grand organisateur. Il légiféra sur la nomination et l'ordination des papes et des évêques. Trois patriarcats s'organisèrent, Rome, Antioche et Alexandrie, qui devint plus tard un phare intellectuel de première importance avec Origène, puis Saint-Cyrille d'Alexandrie, les premiers théologiens. Mais le répit ne fut pas de longue durée. À Titus, le destructeur de Jérusalem, succéda son frère Domitien, qui fut bientôt appelé le Néron chauve. Il se prenait pour un dieu et tenait à garder le côté scrupuleux de l'ancienne religion. Par exemple, il fit enterrer vivante trois vestales. Il se disait clément, mais sa clémence consistait à laisser à un condamné le choix de son mode d'exécution. Il détestait les philosophes et fut à l'origine de la deuxième grande persécution contre le christianisme. La famille Flavius, proche du palais, coupable de ne pas croire à la divinité du prince, paya un lourd tribut. On a retrouvé en 1865 la sépulture de la famille Flavius. Ses peintures étaient en quelque sorte des motifs païens christianisés. Par exemple, Psyché a été prise comme symbole de l'âme endormie attendant le Christ. Le Christ est représenté imberbe, ce qui durera plusieurs siècles, comme on peut le constater dans les plus anciennes églises, même en France. Plus tard, on représentera le Christ, on représentait le Christ sous les traits d'Adonis. Ça a été jugé un peu bizarre quand les mentalités eurent changé. Parmi les martyrs de l'époque, citons les plus connus, citons Sainte Domitille, un prénom qui revient en honneur, Sainte Thècle et Saint Jean l'Évangéliste, qui fut plongé dans une bassine d'huile bouillante. Domitien aimait varier ses plaisirs. À côté des célébrités, il y eut beaucoup de gens d'humble condition qui furent martyrs, comme dans toutes les persécutions, de la terreur au stalinisme. Pour plus de détails, consultez vos journaux habituels. Domitien accusait les chrétiens d'athéisme. Il voulait condamner tous ceux qui disaient du mal de lui. Il mourut assassiné. Il faut tout de même noter que le pape Saint Clément, peu après sa mort, apprenait dans une de ses épîtres, les ancêtres des encycliques en quelque sorte, le respect dû aux princes qu'il faut recommander à Dieu afin que Dieu transforme leur cœur. Nous sommes bien loin du devoir de mémoire. Voilà, je vous souhaite encore une bonne année et puis à mois de février pour un nouvel exposé.